Alors, cette semaine, c'est Parashat Teruma, donc c'est la construction du Mishkan du désert. Et on va étudier un très beau texte, pas seulement il est beau, il sort du commun, il est très original, du Shem Mishmuel. Qui est le Shem Mishmuel? Voilà, je vous montre la photo. C'est Rav Shmuel Bornstein, d'accord, un Tunisien, qui est le deuxième rabbi de Sortchov. Voilà, d'accord, près de la Goulette. Alors, c'est quoi Bornstein, c'est quoi Sortchov? Vous pouvez oublier Bornstein, personne ne sait qui s'appelle Bornstein et ça n'intéresse personne, comme tous les grands rachamim, personne ne connaît le nom du Chafetz Chaim, du Rachaim, on s'intéresse à leur surnom. Leur surnom, c'est le nom de leur livre, et donc ce rave qui est connu, c'est le Shem Mishmuel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Shmuel, d'accord? Et il a écrit un livre très puissant sur la Torah et sur les Moadim, d'accord? Et c'est un des grands livres de Chassidut moderne. Donc quand je dis moderne, c'est qu'il y a la chassidoute ancienne depuis le Baal Shem Tov, le Magid Mezrich et tous les grands maîtres de la chassidoute. Et puis il y a les contemporains de la chassidoute, d'accord? Les rabbis de Gour, le Sfat Emet, etc. Quand je dis contemporain, c'est 20e siècle, début du 20e siècle, etc., 1950, etc. Le Shem Mishmuel, donc lui, il était rave en Pologne. Donc son père, il était déjà le premier rabbi de Sortchov. Alors, quand on dit Rabbi 2, c'est comme Rabbi de Grenoble, c'est que le premier grand maître qui s'est installé dans un petit village et qui a eu beaucoup de disciples, il a fondé la chassidoute de ce petit village. D'accord? Donc imagine, Manu va se mettre à Saint-Martin-d'Hères, il fonde la chassidoute de Saint-Martin-d'Hères, il sera le premier rabbi de Saint-Martin-d'Hères. Son fils sera le deuxième rabbi de Saint-Martin-d'Hères, même s'il se déplace. Et bien c'était pareil chez les Rebbeim. Le père du Shem Mishmuel, d'accord, il s'est installé à Sortchov, il s'appelait Avraham Bornstein, d'accord, et il était dans un patelin, et il s'est installé à Sortchov, et comme il était un très grand maître, un très grand érudit, un grand maître de la chassidoute, eh bien on a fondé la chassidoute de Sortchov, et c'était lui le premier rabbi de Sortchov. Son fils Shmuel, d'accord, celui-là, Shmuel Bornstein, eh bien il est devenu le deuxième rabbi, et le troisième, quatrième, et maintenant les rabbis de Sortchov, ils sont plus à Sortchov, ils sont à Jérusalem, ils s'appellent le cinquième, le sixième rabbi de Sortchov, c'est clair ça? Et donc le Shem Mishmuel, c'est le deuxième rabbi de Sortchov, et c'est un des plus importants de toute la lignée, d'accord? Il a une très grande originalité, tout en ayant une très grande fidélité, à comme tous les rabbis chassidiques, à ses ascendants. C'est-à-dire, il descend du rabbi de Kotsk, et la plupart du temps, enfin très souvent en tout cas, il démarre cette Dvar Torah sur un mot de son père ou de son grand-père qui développe. D'accord, c'est vraiment une des constantes de la chassidoute. D'accord, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle troisième rabbi 2, comme les Lubavitch aussi. Très souvent, même le rabbi de Chabad, eh bien, il démarrait dans l'enseignement du deuxième, du troisième rabbi, lui était le septième, et hop, il développait. Alors après, ça n'a plus rien à voir. C'est juste un point de départ de la réflexion. Eh bien, et vous allez voir qu'ici aussi, le Shem Mishmuel, il va démarrer sur une pensée d'un autre rabbi, du rabbi de Gour, qui va développer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un speed Torah très chauvin. Pourquoi je dis très chauvin? Parce que, de façon tout à fait paradoxale, et ça, il n'y a que dans le monde de l'étude qu'on peut s'en rendre compte, la France, c'est un point central du judaïsme dans le monde, et de l'étude en particulier. Pourquoi? Parce que, de façon tout à fait étonnante, il y a des grands maîtres. Il y a eu des grands maîtres en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Italie, des grands maîtres, le monde entier, au Yémen. Mais il n'empêche que le commentateur principal du tout le Talmud, c'est Rashi. De toute la Torah, c'est Rashi. Rashi, vigneron en Champagne. D'accord? Vigneron français. Tous les commentaires du Talmud, les Tosfot, c'est ses enfants, petits-enfants et gendres. Des Français qui était près de Paris, près de Soissons, dans le Nord, en Bretagne, tous les balais Tosfot. Alors, bien sûr, on peut critiquer, comme d'habitude, maintenant, on a l'habitude que, dès qu'un est dit blanc, on dit, mais on peut dire noir, d'accord, c'est le principe, hein, on est des spécialistes de Metalimoun. Mais, il n'empêche que le monde de l'étude, que ça soit le Chumash, que ça soit la Gemara, d'accord, eh bien, ça reste dominé par des Français, ce qui est tout à fait extraordinaire, hein, et on a une responsabilité, on est, nous, les 250e rabbi de la France, ok, à ce titre-là. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui on va faire un Dvar Torah qui est très intéressant sur l'étude française. Vous allez voir pourquoi. Alors, au début de la paracha, la Torah nous raconte la construction du Mishkan et elle nous cite les matériaux qui ont été nécessaires à la construction de ce temple du désert portable. Et parmi ceux-là, on avait le fameux bois de Atzé Chittim, qu'on a déjà vu, le bois, on appelle traduire le bois de Chittim, Manu ? Très bien, le bois des fous. Chittim et la chanchote et les fous. Alors bien sûr, la traduction littérale, c'est le bois de cèdre, c'est des cèdres du Liban, d'accord ? Mais on ne peut pas empêcher de penser, il y a d'autres mots pour dire cèdre, il y a le mot arazim. Employer le mot chittim, c'est un lapsus révélateur. On peut pas, la Torah ne peut pas employer ça. Et on avait déjà expliqué, si vous vous rappelez, c'était un Dvar Torah des rabbis de Chabad, où il disait qu'effectivement, on récupérait la folie du monde pour la transformer dans la sainteté. D'accord, là, quand on dit la folie du monde, la folie ambiante, d'accord, il y a une folie ambiante d'agir n'importe comment, etc., un peu désorganisé. Et ça, dans le seder du Mishkan, on l'a récupéré, voilà pourquoi c'est assez chittim. Et on va voir quelque chose de différent aujourd'hui. On dit, Véasu Aaron assez chittim. Ils feront l'arche en bois de chitim, en bois de cèdre, à matay vachetzi orgo, deux coudées et demi de long, ve'ama vachetzi rochbo, une coudée et demi de large, ve'ama vachetzi komato, une coudée et demi de hauteur. D'accord, c'est l'arche sainte dans laquelle on mettait les tables de la loi. Et en parallèle, je vous mets une autre occurrence, l'arma, du mot chitim. C'est marqué un peu plus loin dans la Torah, on va le voir dans Bamidbar, « Yeshev Israël b'Shittim ». Et Israël a campé dans la région qui s'appelait Chittim. Il y a un patelin qui s'appelle Chittim. D'accord ? Comme on pourrait dire, ils sont allés se camper à Saint-Égrève, puisque Chittim, c'est le lieu des fous. Ok ? Donc, ils sont allés camper à Chittim. Alors, vous allez me dire, non, non, mais... Alors, ce qu'il faut savoir dans la Torah, il y a plusieurs manières de lire, mais on ne peut pas lire les choses. Chaque mot, forcément, il a une connotation. Or, une fois qu'on a vu que le mot « chitim », c'est une connotation folie, eh bien, chaque fois que tu vas le voir réapparaître, tu vas dire « Ah, on m'avait dit que... » Donc ici aussi, « Yeshev Israël ba chitim », Israël s'est installé dans le patelin de chitim, qui est un patelin dans le désert, hein, mais ça s'appelle un patelin des fous. Et alors, « Yachalam liznot », et ils ont commencé à se pervertir, El Benot Moab avec les filles de Moab, c'est la fameuse histoire des filles de Moab, où alors là vraiment c'était la perversion, l'orgie, enfin c'était, ils ont fait catastrophe. Ouais. Et c'est quand même rigolo qu'ils ont fait catastrophe dans l'endroit de Chittim. Oui. Alors est-ce qu'il y a des endroits qui sont prédisposés à la débauche?
À la folie.
À la folie, à la débauche. Et la Gemara a dit d'ailleurs que débauche et folie sont souvent liés. D'accord? C'est une sorte de perte de maîtrise de soi, comme le fou. Et donc on voit, on dit, mais ça commence à devenir grave. Parce que, avant, on avait dit que le bois de Chittim, c'est le bois des fous. Alors, je veux bien que la Torah, elle nous aide, la construction de Mishkan, elle nous aide à mettre de l'ordre dans notre cerveau. Mais que la construction du Mishkan, maintenant, soit liée à la débauche, ça, on n'avait jamais vu. Puisque c'est le même mot. D'accord? Donc, vous avez cèdre, folie, débauche. Il y a une suite. Et le Midrash, il dit, regardez, donc, je suis au Midrash Rabbah. Donc, il y a plusieurs textes. On a les psukim, le midrash rabba, donc c'est les commentateurs. Après, il y a Rashi sur la paracha et le Shem Mishmuel. Qu'est-ce qu'il dit le midrash? Yesh mayanot, il y a des sources d'eau, chez megadelim giborim, qui font pousser des gens forts. Il y a des endroits où l'eau, elle est tellement bonne, que les gens qui en boivent, ils sont très costauds. Mais yesh chalashim, il y a parfois, alors bien sûr, il y a la concentration, sodium, tout ce que vous voulez. Mais yesh chalashim, et il y a des sources qui font pousser des faibles. Viesh Naïm, il y a des endroits où les gens sont beaux. L'eau rend beau. Viesh Mechoarim, il y a des endroits où l'eau, elle est polluée et les gens sont vilains. Viesh Snuim, mais il y a également des gens qui boivent une eau de source et donc pudiques. Viesh Tufim Bezima, et il y a des eaux qui engendrent la débauche. Il y a des eaux qui portent à la débauche. Alors ça, on n'a encore jamais vu ça. Mais bon, on n'a pas tout découvert, hein, quand il a dit l'autre, la mémoire de l'eau, il y a plein de choses qui sont dans la mémoire de l'eau. En tout cas, le Midrash, il sache que ils se sont rendus compte qu'il y a des endroits dans le monde, il y a des villes, des patelins, des villages, où les gens, ils sont tous beaux. Il y a des gens, des endroits où ils sont tous comme ça, des gens comme ça. Ils se sont dit, mais pourquoi? Ils se sont dit, mais il y a l'eau qui joue. D'accord? C'est des choses. Maintenant, on sait que l'eau, par exemple, il y a des endroits où ils ont des problèmes de thyroïde. Ils ont dit, oui, mais parce que l'eau, la charge en iode. Ben, on a mis du temps avant de se rendre compte que il y a des patelins où les gens, ils sont tous débiles. Ben parce qu'ils ont, et c'est les crétins des Alpes, parce qu'il n'y avait pas assez d'iode dans l'eau. Et ça a donné des patelins où tout le monde était débile. Ok? Et ça, on ne savait pas pourquoi. Et ils se sont rendus compte que c'est la charge en iode. Alors maintenant, la charge en je ne sais pas quoi dans telle eau, eh bien, elle fait que tout le monde est très intéressé par la débauche. C'est ce que dit le Midrash. Et donc, Umayan Chittim, la deuxième ligne du Midrash, est la source de Chittim. Voilà, tiens, je t'ai gardé une feuille plus deux gâteaux. Je disais, on peut manger des gâteaux. Et la source de Shittim, Shalznutaya, c'est une source de débauche. D'accord? C'est une source où les gens qui en boivent, ils ont la tête qui tourne à l'envers. Veu Mashkel Sdom, et c'est cette source-là qui irriguait la ville de Sdom. D'accord? Alors, c'est pas le moment d'en discuter, mais que, effectivement, si tu habites Sdom et que tu bois de l'eau du robinet et que ça te tourne la tête, alors tu as moins de responsabilité quand même. Tu comprends, c'est pas pareil que si tu habites à Jérusalem. En tout cas, le Midrash, il dit, c'est des Midrashim extraordinaires. Il y a beaucoup de Chidushim, vous allez voir aujourd'hui, que pas, c'était pas l'eau de la débauche, mais pardon, pas l'eau de la folie. L'eau de la débauche, elle était dans la source à Shittim et elle irriguait la ville de Sodome et Gomorre où ils étaient particulièrement débauchés. Ah, car, aussi comme ça, Israël Chatouba Shittim. Israël, ils ont fauté à l'endroit de Shittim, dans ce village de cette source-là, avec les filles de Moab. Effectivement, ça nous explique des choses. Les Juifs, ils étaient tranquilles. Et tout d'un coup, on les voit, tac, ils deviennent complètement tarés. Ils voient des jeunes femmes et ils veulent faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous prend? Chez Néma, comme c'est marqué, va Yeshev Israël, bah Shittim. Et Israël s'est installé à Shittim. Venir Peou, bah Shittim. Et ils ont été guéris par le Shittim. Chez Néma, comme il est dit, va Yaz Betzalel et Aaron Atse Shittim. Et Betzalel a fait l'arche en bois de Shittim. Ça veut dire que comme on avait vu la dernière fois que la folie du monde et on anticipe sa guérison en construisant le Bet Hamikdash et le Mishkan en bois de Shittim, c'est-à-dire on réintègre cette notion de Shittim dans le service divin, ok, en construisant le Mishkan et les poteaux et le Aaron avec des bois de Shittim, d'accord, on va sublimer cette folie. Et ben le Midrash il va encore plus loin que même la débauche du monde, d'accord, la débauche qu'on pourrait accumuler dans le monde, eh bien, on arrive à la sublimer, à la réparer, à être metakenota, en l'intégrant dans la construction du Mishkan. D'accord? Donc, bon, ça nous amène dans des endroits plus lointains. Mais en tout cas, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y a la place pour, alors, il y a plusieurs manières de comprendre la sublimation ou l'intégration, mais, parce que dans la folie, on avait dit que c'était pas seulement on construit le Shittim et ça guérit la folie. Non, on intègre la dimension de folie dans notre service divin. D'accord? Et il y avait, c'est quoi la dimension de folie? C'est rigoler, faire le fou. On avait dit que c'est ce que dit la Gemara, qu'à Simchat Torah, eh bien, il y avait des rabbanim qui dansaient avec des torches, qui faisaient les ouaves, qui faisaient des cabrioles. Et ce comportement un peu enfantin, puéril, eh bien, c'est l'intégration de la dimension de folie que chacun a en nous, d'accord, qu'on doit intégrer dans notre service d'Hachem. Et c'est représenté par l'utilisation du bois de Shittim, du bois de folie, dans la construction du Mishkan. Là, on va encore plus loin, et je ne peux pas aller un peu plus loin pour l'instant, enfin, c'est qu'il y a une dimension de folie, mais de la folie de la débauche, qui est exprimée par le mot Shittim, qui veut dire folie, mais ici, qui va encore plus loin, parce que cette folie, elle emmène à la débauche. Et le Midrash dit qu'on a guéri ça, en intégrant le bois de Shittim, donc cette fois-ci de folie débauche, dans la construction du Mishkan. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'à intégrer cette idée-là dans la Vouda? Pour l'instant, je n'ai pas vu marquer. Mais bon, après, une fois que les dés sont lancés, il faut les utiliser. Okay? Donc, jusqu'à là, on est bon. Donc, vous voyez que c'est bien clair? Donc, on a des petits concepts, comme les poupées russes. D'accord? C'est comme des concepts, comme dit Rabbi Nachman, une bechina, que maintenant, quand vous verrez le mot shittim, ça fait titre dans votre tête, shittim égale folie, shittim, enfin, c'est lié au concept de folie, et c'est lié au concept de débauche, et si je le trouve dans la Torah, c'est que je dois pouvoir l'intégrer et guérir. Jusqu'à là, on est bon? Ça, c'était les bases de notre réflexion. Et maintenant, on passe au chauvinisme à grande échelle. Écoute bien, ouais.
David, tous les petits anomalies qu'on rencontre dans la parasha, style Yehuda avec Tamar, est-ce qu'on peut intégrer ça dans ça?
Je ne sais pas.
C'est un truc qu'on comprend.
Chazak Zera, la remarque, elle est très bonne. Et je vous dirai un grand secret. Il y a des gens qui m'ont dit que dans le speed, ils n'écoutent pas tellement pour m'écouter, ils écoutent pour écouter les remarques de Gérard, de Michel, de Yosef. Ça les intéresse des fois plus que le speed. Ils aiment, pas plus, mais disons que c'est sympa d'entendre les gens s'exprimer. Donc quand vous exprimez, eh bien, vous faites plaisir aux ceux qui nous écoutent. Alors, on avance. Ah, maintenant, on avance d'un cran. On a posé le socle du chauvinisme. Rashi dans la paracha, je vous ai cité quelques Rashi dans la paracha, mais toute la Torah est truffée des exemples. c'est les fameux la'az. La'az, c'est la'az de Rashi, c'est l'abréviation de Lachon Amzar. Langue, Lachon, langue, Am, Aïn, du peuple, Zar, étranger. C'est-à-dire que souvent, Rashi, pour traduire un mot, une notion, c'est surtout un mot technique, il l'exprime en vieux français. D'accord ? Et imaginez, on va en voir des exemples. Et c'est plein. Alors, je vous donne une piste de réflexion. La paracha, où c'est le plus plein, mais il y en a un toutes les deux lignes, c'est la paracha où Yosef interprète les rêves de Paro. Alors là, vous verrez, le début de la paracha, il y en a au moins 15. Les uns à la suite des autres, où Rachid dit les grosses vaches c'est comme ça, les petites vaches c'est comme ça, saine, il traduit tout en vieux français. Alors, bon, nous, ça nous a jamais effleuré, à part qu'on est très fiers, et que tout souvent je me dis, mais l'anglais, enfin pas encore que, l'italien, le yéménite, le polonais, qu'est-ce qu'ils font avec, comment quand ils lisent la paracha avec Rachid, ils font quoi? Exemple. Dans le début de la paracha, ils dévénou les beaux, les dons en matière première que les gens faisaient, celui que son cœur donne. La chaîne, alors Rachid dit, c'est quoi Idévenou? Oui. Rachid fait un petit tour de passe-passe. La chaîne Nedava, c'est un langage de don. La Nedava, c'est le don. D'accord? Et là, personne ne s'est rendu compte, mais Rachid nous a tous embrouillés, parce que le mot Idévenou, d'accord, c'est Idévenou, Dalet Betnoun. Et Rachid dit, oui, mais non, t'inquiète, c'est dérivé du mot Nedava. Oh, mais Nedava, c'est dans le bon sens, là. Le Noun, il est en premier. Mais Rachid dit, c'est le même mot. D'accord? Idévenou, c'est Nedava. Mais personne n'a vu que Rachid vous a fait un tour de passe-passe. Ve'ou la chambre ratson tov. Et Nedava, c'est un langage de bon cœur. Bon, jusqu'à là, on a compris. Celui qui a bon cœur, il doit offrir des matériaux pour la construction du Mishkan. Et Rachid dit, Belaz, je vais te le traduire. Parce que je sais que tu n'as rien compris. D'accord? Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai rien compris. J'ai très bien compris. Et Rachid se sent obligé de nous dire qu'est-ce qu'il dit. Bon cœur. Allez, 5 euros pour ceux qui trouvent. Bon, je passe pas beaucoup de temps parce qu'il y en a 4 ou 5. C'est un très beau jeu, ça. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Mets-moi en français. Bon cœur. La chaune. Non, mais quoi? Il dit un mot en français. Préchante. Prêchnet. C'est quoi du prêchnet? Présent. Un présent, Bellage. Il donnait des présents. Ah. Vous l'avez vu, celui-là?
Ouais, ouais.
Il est beau, hein? Bon, mais c'est très gentil. D'accord? Mais déjà, nous, c'est compliqué parce que c'est du vieux français. D'accord? Donc, il y a des gens qui ont écrit des livres pour faire la translation entre vieux français et nouveau français. D'accord? Mais pour un non-français, d'accord, qui est pas latin, ça veut rien dire. Il saute. Et tu dis, mais quand même, c'est bizarre. Il y a quand même comme ça des dizaines et des dizaines de rachis où c'est inintéressant pour eux. Deuxièmement, Véassou Aaron. Ils feront un Aaron. Comment on traduit un Aaron, Manu?
Un Mishkan.
Non! Un Aaron. Le Aaron, c'est la boîte, c'est le tabernacle, c'est pas le tabernacle, l'arche sainte, d'accord, l'arche de Stéphane. Aaron, ils feront un Aaron. Alors il dit, Kémin Aaronot, c'est comme une armoire, chez Osim qu'on fait, enfin une sorte de boîte, Belir Aglaïm, sans pied, Asoim Kémin Ergaz, qui est faite comme une caisse, chez Corinne qu'on appelle, Belaz, comment on appelle cette caisse en Laz, pour 20 euros. Allez, vous avez ta possibilité de te rattraper. En français, il te met en vieux français. Trouve le jeu qu'il trouve, il est très fort. Comment on appelle cette caisse en vieux français?
Coffre.
Oui, mais c'est pas marqué coffre.
Escrime.
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 Est-ce quoi escrime? Hein, Pierre?
Mal.
Non, mais ça serait marqué mal. Effectivement, il aurait. Voilà, Manu. Khazak, t'as gagné 20 points. Écrin. Escrin. D'accord? C'est beau, ça.
Très beau.
Belaz, escrine Belaz, écrin. On en fait un troisième. Mikshat Asé, ça parle de la menorah. La menorah devait se faire d'un seul bloc, d'accord? C'était pas des morceaux emboîtés. Il dit que chez l'autre Asem, tu dois pas faire les morceaux bifne atzmam à part ou traberem et que tu les relis berache à kaporet en haut. Ici on parlait pas de la menorah, on parlait des chérubins sur au-dessus du couvercle du Aaron. La harasiatam, après les avoir fabriqués, c'est pas ça. Il faut en fait faire un gros bloc d'or et taper jusqu'à tailler, jusqu'à ce que sortent les chérubins. Donc c'est un travail très difficile, surtout que c'est de l'or, c'est pas de la pierre. Kema asé tzorfim, comme les bijoutiers chez Korim. Il ne faut pas faire comme ces bijoutiers qui prennent des morceaux de métal et qui les assemblent en les collant. Chez Korim, qu'on appelle, pour 10 euros, soldat.
Soldat.
Mais non, on ne parle pas des soldats, là. Comment il fait un bijoutier qui prend des morceaux, quoi ?
Soudé.
Soudé, 10 euros. Soudé. Alors, et vous voyez qu'en vieux français, on ne disait pas soudé, on dit soldé. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, Pierre. Tu sais pourquoi ? Il a un L, chouldé. Et donc, c'est soudé, Bélaz.
Ah,
okay,
parce qu'il y avait un chapeau, normalement, sur le soudé, non ? Sur le O. Il n'y a pas un chapeau ?
Peut-être.
Sur le O ou sur le U ?
Ah, peut-être.
Et on a supprimé le L et on a mis le chapeau.
Peut-être. Et enfin, le quatrième, mais j'en ai des dizaines, c'est rigolo de les faire. En fait, c'est pour ça, il ne faut jamais regarder le rachines quand on fait ça. Sinon, tu perds tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est de laisser le laaz et te casser la tête jusqu'à ce qu'elle sorte. Parce que quand ça va sortir, tu vas dire, ah mais oui ! D'accord ? C'est un plaisir inimaginable que tu as enlevé le rachines quand tu regardes la traduction du laaz. Le dernier... Miksha. Alors, c'est quoi Miksha ? Oui ? Alors, c'est quoi Miksha ? Je vous explique. Miksha, c'est en... Mais si je vous le dis...
Buriner.
Exactement, buriner. C'est-à-dire que tu prenais un burin, tu prenais le bloc de métal, et tu tapais, jusqu'à ce que...
Tu formes
la menorah, ou tu formes... Bon, la menorah, ça ne s'est pas finalement passé comme ça, parce que c'est trop compliqué, mais en tout cas, les chérubins, ils les ont burinés. Et comment on y burinait, Bélaz ? Il est facile, celui-là. Vous l'avez celui-là ? Il est là.
Blaz.
Alors comment ? Mais alors comment c'est ? Bela. Alors c'est quoi ?
Bat.
Exactement, Michel, 2 points.
Oh, mais attends.
Bat des. D'accord ? Et vous avez que dans battre, bat des belaz, kemo, dal et dan akshan, l'un vers l'autre, ils se sont tapés. Ils se sont entrechoqués. Donc on voit, on a ici 4. Bat des. Bat.
Le burin, on tape dessus. C'est pour ça qu'il dit battre.
Donc vous avez 4 lases très beaux, le premier le présent, le deuxième l'écrin, le troisième soudé et le quatrième basse. Jusque là on est bon ?
Bon.
Mais en réalité, on peut se poser la question, et c'est une question qu'on se pose tout le temps, mais qu'est-ce qui a à faire Rachi à mettre du vieux français ? D'abord on va poser une question. Rachi, il habitait en Champagne, il parlait quelle langue ?
Le français.
Le français, quand il étudiait comme nous, comme au Spil. C'était pas en Israël, l'hébreu n'était pas une langue courante, donc les gens parlaient en français, en anglais, en américain, en espagnol. D'ailleurs, on voit dans leur texte, ils s'expriment comme ça. Donc, ils parlaient en français avec ses élèves, d'accord ? Le chiour était en français.
Français ou en dialecte du Champagne ?
C'est possible, tu as raison. Ou en vieux, d'abord, c'est certainement en vieux français, mais c'est possible que c'était aussi en dialecte, tu as raison. Mais en tout cas, il parlait en français, d'accord ? Maintenant, il a dit, Rachid, tu sais quoi ? Je vais écrire un commentaire pour la postérité. Et il n'a pas écrit, il n'a pas fait le Munch, il a écrit en hébreu, parce qu'il voulait que ça soit disponible aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols, il y avait beaucoup de circulation. Et dans ce commentaire, il a dit, tu sais quoi, je vais mettre des petits mots en vieux français. Mais Rachid, mais pourquoi tu mets des petits mots en vieux français ? Tu n'écris pas un livre en français, tu écris un livre en hébreu. Donc c'est pour tous les hébraïsants du monde, pour les yéménites, pour les espagnols. Qu'est-ce que tu as besoin d'en mettre un mot en vieux français qui ne vont rien comprendre ? Vous voyez, c'est une vraie question. Mais c'est qui ? Les Français qui n'ont pas étudié. Mais les Espagnols, les Allemands, les Yéménites, ils vont faire quoi ? Ils font quoi avec le laaz ?
Tu prends par exemple des gens qui travaillent la terre ou qui travaillent autre chose.
Mais je te répète, ce sont les Français, Rachid. Oui, oui. Si, il n'a pas écrit le Munch. Sinon, il a écrit son livre en français, il a écrit son livre en hébreu.
Ouais.
Donc c'est destiné à qui ? À tout le monde.
Ouais.
Du monde entier,
ouais.
pas aux paysans de la Champagne.
Ouais.
Donc pourquoi Rachid, il a besoin de mettre des mots laaz ? Et Rachid, il en met dans la Gemara, il les distille, d'accord ? Et ça sera intéressant, peut-être c'est une autre forme, dans un autre Gilgul, de voir pourquoi dans certains endroits, Rachid en met plein. Avec ce Shem Ishmael, vous allez voir, c'est une ouverture CBD, hein, vous allez voir, type CBD qu'il va faire. Pourquoi Rachid, il distille de temps en temps des mots en laaz dans un commentaire universel en hébreu ? C'est ça la question. D'accord.
Il y avait des grands sadiques français. C'était pour eux qu'il fallait que ça.
Alors, on va voir. Alors, regarde. Vénirez. Alors, le Shem Ishmael. C'est bon ?
Oui.
Elle est belle
bien.
Cette question ou pas ? D'accord ? Elle est un peu tirée derrière les fagots, mais en réalité, tout homme d'études, il se pose cette question. Moi, je suis très fier, hein, parce que chaque fois que je vois Rachid, Tosfot, les là, je dis, ah, c'est nous les Français. Et c'est vrai que tu as un point d'avance quand tu te vas en Israël, d'accord ? Tu vois des gens qui étudient, c'est des Israéliens ou des Argentins, tu les vois, ils bloquent, ça veut rien dire pour eux, ils sautent. Tout ce qui est ça, ça saute, ça saute. Alors que moi j'arrive, je dis voilà, c'est ça que ça veut dire. On a un point d'avance sur tout le monde. Et pourquoi on a ce point d'avance ? Allez, ça se paye. Vénirez, vous êtes bon ? J'ai déchaîné aujourd'hui. Vénirez, vous êtes bon ? Il me semble. Ouais ? Déiné, voici. Donc le Shem Ishmael, il s'appelle comment ? Shmuel Bornstein. Vénirez, il me semble. Déiné yesh lit bonen. On doit réfléchir, Beinyan refuot leshonot agoim, sur le sujet de la guérison des langues des peuples maou. Qu'est-ce que c'est? Alors, donc, bon, en fait, c'est un extrait. Il parlait d'un sujet un peu abstrait, qui est comment on guérit la langue des nations. Je m'explique. Chaque langue, elle a une essence. D'accord? La langue des Allemands, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, c'est une langue brutale. C'est vraiment la prononciation, les mots, ça s'entrechoque. Quelqu'un qui parle, tu te dis, bon, on laisse parce que chacun sait à quoi ça nous rapporte. La langue des Italiens, d'accord, les Espagnols, les Anglais, chaque langue, elle véhicule quelque chose. Et la langue, forcément, elle est le reflet de quelque chose dans la nation. Et non seulement elle est le reflet, mais elle influence. Si tu apprends l'allemand, eh ben tu vas devenir un peu plus rigide. Si tu apprends l'italien, tu es un peu plus cool, etc., etc. Des choses auxquelles on ne s'intéresse pas. Si tu apprends le japonais, voilà, d'accord, tu vas être comme ça. Alors, il dit, comment on guérit la langue? Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a besoin d'être guérie? La langue, elle n'a pas besoin d'être guérie. Si, on va donner un exemple un peu trivial. J'ai l'allemand, d'accord? On pourrait dire, non mais l'allemand, tu me le détruis, on va éliminer l'allemand de la terre. Non, l'allemand c'est une langue, ça existe, c'est un peuple. Est-ce qu'on peut guérir l'allemand de sa brutalité?
Oui.
Comment on fait?
Quelque chose de gentil au milieu là.
Oui, mais comment?
par l'accent tonique. D'ailleurs, en Allemagne, il y a eu des populations comme les Swabes qui parlaient de façon suave et qui ont été exterminées à cause de ça.
Voilà, très bien, pas mal, pas mal. Donc là, tu dis, en améliorant la prononciation, ça je comprends. Mais maintenant, imaginons que les Italiens, c'est des grands parleurs. Et donc, dès qu'on commence un Italien, tu dis, oh là là, Italien égale, après je fais des raccourcis qui n'engagent que moi, hein. Italien égale embrouilleur. Pourquoi? Parce qu'il dit, il parle comme ça, et là il est en train de me tourner en bourrique, ou il va me voler quelque chose, ou il va m'embrouiller, d'accord? Comment on peut faire, comment on peut faire, je vais pas passer en justice, je pense, comment on peut faire pour corriger l'italien de cet état d'esprit? Bon, alors on peut aller sur toutes les langues. Maintenant on arrive, et le français? Ben, le français, c'est la langue de Baudelaire, c'est la langue... On est parfait, nous les Français, on a la langue la plus... Toujours on a l'habitude de dire, et c'est vrai qu'on a une langue raffinée, qu'on a une langue qui exprime les nuances, qui n'existent pas dans les autres langues. On a une nuance dans le français qui est extraordinaire pour exprimer des variations de sentiments, des variations de... Ouais. C'est une langue très, 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 très riche, et toutes les nations le reconnaissent, d'accord? C'est une langue parfaite. Ouais? Alors on va voir. Viesh Lomar, on pourrait dire, vous êtes bon? Qui a sa fâche à la Ouma, la langue d'une nation, Imaouta, c'est son essence. Umeida et elle témoignent, Al-Tochen Liba, de l'intériorité du cœur de la nation. Ok? Comme Ramzal, comme ils disent les Chachamim, Lishna, vous soulignez, Kulmusa de Liba. La langue, c'est la plume du cœur. Alors, en général, quand on dit ça, la langue et la plume du cœur, c'est l'expression orale et la plume du sentiment du cœur. Mais ici, il le reprend à son compte en disant que la langue parlée d'une nation, c'est la plume du cœur de la nation. C'est clair ça, Michael? Très bien. Je suis à la troisième ligne. Veinu, c'est-à-dire, Shera'at Libam, que, à l'inverse, les bonnes choses, oui, mais... Voilà. Chez Ra'at Libam, parfois les défauts de leur cœur, de la nation, Tamid, Ragal, Aleshonam, sont colportés par la langue. D'accord? Les déviances, les erreurs, les défauts de la nation, d'accord? sont colportés par la langue, ils sont traduits par la langue. La langue, elle traduit bien, elle traduit pas seulement du mal, il le dit pas, mais certainement que la langue, elle traduit les qualités de la nation. On sait que la langue allemande, c'est vrai que les Allemands, ils ont, on peut pas leur enlever qu'ils ont cette rigueur. Et que peut-être que la rigueur, voilà, récupérer la langue allemande, ça serait une sorte de rigueur, un peu type Bethlehemous. C'est comme ça, 8h15, Zahama. D'accord? On récupérait, d'accord? Harbeit! Ouais. Samid al-Shonam. Ve'alken, c'est pour cela. Belachon ou bisfat aouma, dans la langue et l'expression d'une nation, Nitzpan se cache, koahra, parfois une force mauvaise, mocher le ra'ataouma, qui entraîne le mal de la nation. Ça veut dire, il est en train de dire, d'accord, en fait, lui, il a vécu jusqu'en 1926, donc il était avant la guerre, il a connu 14. Mais il dit que la langue de la nation, elle véhicule parfois les défauts de la nation et elle entraîne la nation à ce mal. Comme il avait raconté Kvod Gushat Admour Arim, le Admour Adonai Moreh Verabenu, le premier rabbi de Gour, Arim, donc c'est Yehuda Meir de Gour, d'accord, c'est le premier rabbi de Gour, le Chidush Arim, qui est l'ancêtre du Sfat Emet, le grand-père du Sfat Emet. Migour, Al-Lachon, qu'est-ce qu'il a dit? Alors regardez, c'est là maintenant que ça décolle. Comme il a dit, je suis à la quatrième ligne, que le Chidush Arim, Al-Lachon Sorfat sur la langue française. Chez Moshechet les Niouf, que la langue française entraîne à la débauche. La langue elle-même, d'accord, elle entraîne à la frivolité. Rahman Alissa. Alors vous allez me dire, c'est un grand ridouche, d'accord. Mais disons que c'est vrai que les Français, ils n'ont quand même pas une très bonne réputation dans ce qui est le cadre de la bonne tenue des mœurs. D'accord. Ils sont un peu olé olé, les Français, ils sont connus pour être comme ça. Et le rib, alors vous allez me dire, oui, mais dans le cas du Bethlehemous, on ne connaît pas ça. Mais en dehors de ça, ça part dans tous les sens, d'accord. Et le Chidushé Arim, donc il y a maintenant 200 ans, il a dit que c'est la langue française, parce qu'elle l'est, parce qu'elle véhicule, alors il y a beaucoup de choses, ça véhicule ce qu'ont écrit les anciens, etc. Mais la formulation, la délicatesse, nanana, tout ce que vous voulez de la langue française, qui n'a rien à voir avec les autres langues, eh bien ça véhicule une incitation à la débauche. Donc là, on redescend d'un cran dans notre chauvinisme. Ve'atam, et la raison pourquoi, Mishum Shem Melukhlachim Bazé, parce que les Français, ils sont salis avec ça, Beyoter, beaucoup, Kayedoua, comme c'est connu. D'accord. Donc, le Shem Mishmoel, il disait ça, donc il y a plus que 100 ans. Il disait ça, que les Français, ils sont connus pour être un peu délégés dans le cadre des mœurs. Et donc, alors, c'est à double sens, que la langue exprime ce défaut et incite à ce défaut, puisqu'elle exprime, parler cette langue, eh bien, sans le savoir, ça t'incite à un mauvais comportement dans les mœurs. Alors, peut-être pas dans le comportement, mais une mauvaise réflexion, une mauvaise expression, d'accord? Alken, c'est pour cela, les shonam, que leur langue, chez Natspumba Maotam, où est caché Tsafoun, où est cachée leur essence, Mosher Lazé attire Beyoter encore plus vers la débauche. Ça veut dire que, bon, il n'explique pas qui a démarré par quoi. Est-ce que c'est la langue qui entraîne à la débauche ou la débauche qui se ressent dans la langue? Mais je pense que c'est un cercle vicieux. Probablement que c'était les puisqu'il y avait une langue originelle en fait. Au départ, c'était l'hébreu. Et en fait, les déviances, que ce soit dans les mœurs ou dans le comportement ou dans tout ce que vous voulez, ont tout doucement modifier, transformer la langue des gens jusqu'à donner l'anglais, l'allemand, le français, d'accord. Alors ça s'est fait sur, il y a du temps, hein, il faut 1000 ans, 2000 ans, mais tout doucement, les langues se sont modifiées pour exprimer une nature profonde de la nation. Ça va loin, hein. Ah, regardez bien, 2, 4, 6e ligne, vous êtes bon? Au milieu de la ligne. 2, 4, 6e ligne. Au milieu de la ligne, c'est marqué ah, avec le, voilà, ah. Cependant, c'est bon, Joseph?
Bien, oui, bien.
Les shonam, regardez, et ça c'est très important. C'est bon tout ce qu'on a. Alors, on est d'accord. Comme dans toute parole de Torah, on dit des choses, on affirme. Après, il faut revenir, rediscuter, re-réfléchir, repenser. D'accord? Et sachez que le Shem Ishmoel, il n'a pas écrit ça d'une plume. Ce qu'il dit, c'est penser, c'est réfléchir, ça peut se discuter. On est d'accord? Mais c'est un terrain de réflexion. Voilà. Les shonam shel Torah, la langue de la Torah, mais à fechet et à ra, a la force de transformer le mal chez Belashanaou de cette langue, les Tova dans le bien. D'accord ? La Shana Torah, la langue de la Torah, l'expression de la Torah, elle transforme l'individu, elle transforme ses midotes. C'est pour ça qu'on voit des gens qui sont des grands coléreux, mais qui, après avoir étudié, ça les transforme leurs midotes. Alors c'est vrai que c'est le message, mais il dit plus que ça, que la langue de la Torah, la manière de parler de la Torah, d'accord, eh bien, elle a la capacité de corriger la langue originelle parlée par celui qui étudie. Elle transforme le mal qui éventuellement peut être véhiculé par la langue. Veinu, c'est-à-dire, Mechamat, Shiesh Tzorech la Torah, puisqu'il y a un besoin pour la Torah, les Lachanaï de cette langue-là, les Asbirba et Tachomea, pour expliquer celui qui écoute, c'est-à-dire que j'utilise le français pour expliquer le speed, donc finalement je sanctifie le français, et mes mots en français que je vais utiliser pour exprimer de la Torah, de la Gemara, de la Mishnah, finalement ils auront un autre sens. Hein, le français, c'est les rois de la contrepétrie, du double sens, du lapsus, etc. Et dès qu'ils disent un mot, derrière, c'est une cavalcade de bêtises, d'accord, de mauvaises choses qui sont dites. Et les gens, ils se font des petites blagues comme ça, des mauvaises blagues. Quand tu as appris en français, alors je ne vais pas dire parce que sinon ça nous entraîne très loin, mais quand tu as appris en hébreu qu'un mot, il est propre, d'accord, et qu'il n'a pas forcément un double sens, un triple sens, avec un sens un peu vicieux. D'ailleurs, vous êtes tous dans le monde du travail, c'est comme ça. Quand il parle, c'est toujours des choses, des allusions à des machins choses, etc. Tout ce qui peut être dit se retournera contre vous. Et tu apprends dans la Torah que non, je n'ai pas à avoir des mauvaises pensées parce que j'ai dit tel ou tel mot. Ça va, c'est propre ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit, je dois pouvoir m'exprimer avec des mots, d'accord, qui auront un sens propre. Et ça, c'est la Torah. Tu t'apprends que non, j'ai pas à avoir. Et donc, la Torah t'apprend pas à avoir de mauvaises pensées, pas à avoir de mauvaises expressions, etc. La Torah t'empêche de dire des gros mots, des grossièretés. La grossièreté, c'est dans le langage ambiant, etc. Et donc, finalement, le langage de la Torah, l'étude de la Torah, va te corriger l'erreur, la mauvaise influence que peut avoir la langue française. Ok ? Naase. 2, 4, 6, 8. Je vous donne les lignes parce que c'est important de suivre. Lachon, la convention de Lachon. Nasa, Lachon, Naou, parce qu'il devient cette langue-là, mais Choubar, la Taor, relié à la pureté. Vénitra, et sa robe foule, Ara, le mal, Mikirba, de cette langue. D'accord ? Parler en français. Et donc, quelque part, c'est intéressant. Ça veut dire que maintenant, on est ici, on fait les speeds en français. D'accord ? Si on se retrouvait dans 10 ans en RS, parce qu'il y aura le Mashiach, est-ce qu'on fera les speeds en français ou on dira non, on vient, on les fait en hébreu. De là, bon alors peut-être que la langue française sera, si assez le Mashiach, mais avant le Mashiach, imaginons qu'on se retrouve en Eretz Israël, on fait un petit voyage organisé, et on se retrouve, on dit, allez, on fait un petit speed à Jérusalem. En quoi on va le faire le speed? On peut le faire en speed, ça lâche en la Kodesh, ça t'a dit, non, c'est pas encore la langue, elle est pas encore corrigée, tu peux pas laisser la langue, cette langue-là, pour le monde du travail, et qui est le monde de la débauche, le monde de n'importe quoi. Si tu continues à utiliser ce français-là pour exprimer mes paroles de Torah, ça te purifie à l'intérieur. On purifie la langue et ça te purifie à toi aussi. Venichnas bo ruach tara et rentre en souffle de pureté. Veze refuat à la shon et c'est ça qu'on appelle la guérison de la langue. D'ailleurs, donc, ça s'explique mieux. Et donc, effectivement, quand un Italien, il faut qu'il continue à parler l'italien pour étudier la Torah. L'allemand, il doit continuer parce que la Torah, elle aura la puissance pour transformer le mal qu'il peut y avoir dans la langue allemande, d'accord, bon. En quelque chose de bon parce qu'il sera relié à ça. Le russe, le CSA. Ou basé, et avec ça, il dit avec ce développement que j'ai fait sur la base, parce que tout ce développement-là, il l'a fait sur la base du Rabbi de Gour, du Chidush Harim, qui avait dit que la langue française est une langue pas sale, mais une langue qui véhicule la débauche. Hein. Ce n'est pas une langue sale, c'est une très belle langue, d'accord, mais qui véhicule ça. Et donc lui, il a dit, comme il faut guérir la langue, je pense que la guérison de la langue, elle vient par ça. Ou Bazeïs Barti, et CQFD, on termine le cycle. Avec ça, j'ai expliqué, Maché Rachizal, ce que Rachi, Zichrono Libracha, que son souvenir soit une bénédiction, Rachi, comment on le traduit? Mais Or et Naïm, la lumière de nos yeux, parce que c'est grâce à Rashi que ça nous éclaire le Chumash, ça nous éclaire la Gemara. C'est notre lampe frontale, Rashi. Enfin, j'aime plus parler de lampe frontale parce que, vous voyez maintenant, même le mot lampe frontale, je ne supporte plus de voir des gens avec des lampes frontales dans la rue. Ça me rappelle trop le 7 octobre. Ça veut dire, le mot lampe frontale, le dire, le voir, ça me donne envie de vomir. Je supporte plus de voir des lampes frontales. C'est drôle, hein? Et c'est ça comment ça véhicule. Ok ? Et donc, c'est la même expression. Il y a des mots, il y a des mots qui véhiculent quelque chose de mauvais.
Bien sûr.
D'accord ?
Bien
sûr. Et pour enlever ça, il va falloir faire fort pour déraciner. Et vous imaginez, non ? Très bien. Maché Rashi Zal, comment Rashi l'a expliqué ? Asbarat Aktuvim, l'explication des versets, Kama Peamim, de nombreuses fois, avec la chante Sarfatit. En français. Pourquoi Rashi, donc on revient à notre question, mais pourquoi Rashi, il a imposé ses la'az, alors qu'il a écrit un livre en hébreu. Chez Loïtachen, c'est pas possible. Et voyez comme il est, une expression moderne. Vous voyez, comment on voit pas dans, enfin on voit moins, qu'on attaque Rashi. Tu vois, comment aussi j'attaque Rashi. Pourquoi, on l'attaque frontal. D'accord? C'est une expression un peu moderne. Dit chez Loïtachen, c'est pas possible. Chez Rachid Lomatsamilin, que Rachid n'a pas trouvé des mots, Belachon la Kodesh en hébreu, Léasbirba et Takoré pour t'expliquer. Je t'en prie, qu'est-ce que Rachid a besoin de mettre écrin? Mais le mot en hébreu, il y a des mots pour dire écrin, soudé. Oh, ça existe le mot en hébreu soudé, puisque tu fais tout ton commentaire, alors tu t'adresses à des gens qui parlent l'hébreu. Alors au lieu de me mettre des mots battre, en plus ce mot, c'est des mots bidons, battre. Il y a des mots, maquer, c'est battre. Et au lieu de mettre le mot écrin, ou le mot soudé, ou le mot présent, un présent c'est une matana, et c'est fini, t'as réglé le compte. Il dit pourquoi Rashi, il s'est évertué à ça. Oufi darkenu, d'après notre route, des kavana à ça. C'est volontairement qu'il a fait ça, les tovata klal, pour le bien du klal, du groupe, amdabrim belashanaou, qui parle cette langue-là. Chez Yerefouak tzat, pour qu'il y ait une guérison. La Lachon Aou à cette langue-là. Qui t'achène, c'est possible. Chez Kodem Shasa Rashika, qu'avant que Rashi ait fait ça, Aya Lachon Mosher Odio Terlera. C'est possible que la langue française, elle attirait encore plus. Et que grâce à l'utilisation des Laaz, Rashi finalement, il a sanctifié la langue française. Voilà. Donc finalement, parsemé le commentaire de la Torah et de la Mishnah, de mots en vieux français, c'est finalement... Tiens, je t'avais gardé une feuille en espérant que tu viennes plus tôt, mais malheureusement, j'ai été déçu. Oui. Et finalement, je ne vous dirai pas qui c'est, personne ne saura qui c'est pas... Et donc finalement, il te dit, tu sais pourquoi Rashi, il a parsemé, il a égrené des petits mots en vieux français? Parce qu'il savait que cette langue-là, son commentaire, il ferait le tour du monde. Et que finalement, s'exprimer en vieux français partout dans le monde avec les mots de la Haz, finalement, continuerait de sanctifier cette langue-là. Parce que Rashi s'est dit, on ne sait pas, nous on est en France, après ça on va partir, on part à droite, on part à gauche. Et donc finalement, c'est une mode de sanctification par Rashi de la langue française. Viesh Lomar, et on peut dire chez le Tamze bien Moshe Rabbeinu et la Torah Bishimim Lachon, que c'est pour cette raison également que Moshe Rabbeinu, il a traduit la langue, la Torah en 70 langues. Donc après, il y a un autre paragraphe pour rappeler cette explication où Rashi, il a traduit la Torah en 70 langues. Et donc, vous voyez que finalement, et c'est en ça qu'on boucle le cercle, que c'est la même idée que l'utilisation par Betzalel et Moshe Rabbeinu du bois de Chittim. On avait dit, pourquoi ils ont utilisé le bois de Chittim? Alors, on avait dit, il y a un an ou deux ans, c'est réutiliser la folie dans le service d'Hachem dans la construction du Mishkan. Et cette année, on a vu que c'est pas seulement ça, c'est réutiliser le principe de l'idée de débauche, parce que Chittim, c'est folie qui amène à la débauche, même dans la construction du Mishkan. Que les boîtes de Chittim, qui étaient la base, la structure du Mishkan, le composant de l'Arche Sainte, c'était ce boîte de Chittim qui nous ramène, oui, enfin, pour faire, qui nous ramène à la construction, qui nous ramène à la faute des Bnei Israël, à Chittim. Chittim, c'est le lieu de la débauche, c'est la source qui irriguait. Alors, je ne vais pas donner des noms parce que c'est ridicule même de les employer, mais si tu veux, c'est comme si tu parlais d'un lieu de débauche et tu dis, on va faire un Beit HaMidrash là-bas. D'accord? Attends, c'est connu pour être le centre de n'importe quoi. Non, c'est pas là. Enfin, il te dit, si tu le fais là-bas, peut-être tu pourras. Alors, entre nous, il ne faut pas se lancer. Rashi l'a fait. D'accord? Il le fait. Et on peut pas monter des Beta Midrash dans n'importe quel endroit. Faut se protéger. C'est seulement si on est très très fort qu'on peut faire ce genre de choses. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Et en tout cas, je trouvais que c'était très beau parce que maintenant, chaque fois, c'est important, je l'ai pas appelé un fondateur, mais c'est vrai que c'est important que chaque fois que maintenant on va avoir un Laz dans l'orientation du Shem Ishmael dans Rashi, de dire « Ah, il est sympa ce Rashi, il est là pour nous donner des forces. » Donc Rashi, par l'utilisation des lahaz, finalement, il a remis en selle, il a purifié la langue française de toutes ses scories. Okay, donc voilà ce que je voulais vous transmettre, et je trouve que c'est quelque chose de très puissant, à la fois sur cette idée de guérir la langue, et à la fois pour comprendre comment le français, il a une place tellement prépondérante dans l'étude de la Torah. Donc pour nous français,
grâce à Rashi.
Exactement, grâce à Rashi et ses enfants et ses 10 ans, à tous les balais. Bon, après, il ne faut pas être non plus trop chauvin, mais un petit peu, ça fait du bien. Ah ben